I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût. Ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro avec bien sûr mon acolyte, l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, merci de m'accueillir encore pour cette belle émission. Poulard Affût, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro et même jusqu'en Corrèze. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité que tu connais bien, tu l'as vu arriver. Il paraît qu'il avait encore un peu de lait qui coulait au bord des narines.
Je l'ai vu assez, aux prémices d'une carrière assez hallucinante, j'avoue. Donc, on va partir de se dire quand même que dans chaque club de rugby, que l'on soit supporter de La Rochelle, de Toulon, de Biarritz ou d'ailleurs, on peut citer au moins un joueur emblématique actuel de chaque club de top 14. Les types qui collent parfaitement à l'ADN de leur ville, de leurs supporters et qui vivent pour défendre les couleurs et bien sûr l'importance du maillot. Antoine Durban au Stade Français, Camille Chia au Racing, Morgan Parra à l'ASM, on pourrait tous les citer. Moi, je ne vais en citer qu'un, c'est Saïd Irèche. De Brive, bien entendu, capitaine du club corrézien depuis 2018 et le départ d'Arnaud Mella. Saïd y joue sa 10e saison après être passé par le Stade Français puis Aurillac. Originaire de Mantes-la-Jolie, il fait partie de ces types exemplaires qui prouvent qu'avec de l'envie, un soutien familial à toute épreuve et sans faille et énormément de persévérance, on peut atteindre le très haut niveau. International algérien, Saïd, au-delà de ses 300 matchs joués en pro, c'est avant tout une gueule, des valeurs, c'est un type autant discret que généreux qui ne s'échappe pas et qui a su tirer son épingle du jeu à la force du mental. Comme pour Brive qui s'accroche et s'arrache chaque saison pour exister face aux armadas multimillionnaires, il en a fallu du mental à Saïd pour se faire une place au soleil et au beau milieu des meilleures troisième lignes actuelles. Son président Simon Guillam ne tarit pas d'éloge sur son joueur. Selon lui, Saïd incarne toutes les valeurs du CA Brive Corrèze, humble, combattant, leader par l'exemplarité. Il a cette capacité de s'adapter à toutes les situations et a toujours le mot juste pour ses coéquipiers. D'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a quelques petites vidéos de lui dans les vestiaires qui sont assez touchantes. Vivendi, d'ailleurs, sponsor tout le monde le sait, Vivendi est sponsor majeur de la Coupe du Monde 2023. A fait de Saïd l'ambassadeur pour cet événement mondial, une juste récompense pour cet homme au parcours atypique. Nous sommes croisés, je me souviens, à nos débuts, enfin à ma fin de carrière, je dirais, à tes débuts, Saïd, ouais, à ma fin de carrière à 25 ans, à tes débuts, Saïd, au Stade Français, et je te voyais au milieu des Rabadans, Parissé, Bergamasso, Moni et autres Rémi Martin, forcé de constater qu'il a appris de ses pairs pour devenir un grand lui aussi. À 36 ans, il a encore cette force de caractère et apporte son expérience au club de Brive pour encore quelques coups d'éclat, on lui souhaite dans ce top 14 compliqué. Salut Saïd et bienvenue dans Poulard Affût, salut.
Salut, bonjour tout le monde. Content salut, et ravi d'être là avec vous.
Merci cool. D'avoir accepté l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Saïd, 10 ans à Brive, 10 ans avec le CAB jusqu'à en devenir le capitaine alors que tu arrivais d'Aurillac. Raconte-nous comment elle est née cette belle histoire d'amour.
Mais écoute, j'étais passé, donc comme tu l'as dit, après le Stade Français, je suis passé par Aurillac, 4 années, 4 saisons fabuleuses où j'ai appris, où je me suis aguerri en Pro D2. Ensuite, il y a eu Brive qui est descendu de top 14 dans cette division. Donc. Et j'ai été mis en contact avec Casa, Didier Casadei. Et à partir de là, on a vécu de belles aventures avec tous les joueurs qui ont porté ce maillot pendant 10 ans. On a connu des descentes, des montées, et des maintiens, des fois à la dernière journée, et des fois des maintiens acquis plus tôt. Et quoi qu'il en soit, 10 belles saisons.
Mais on a le sentiment surtout, Saïd, que dans cette ville, tu es devenu une sorte d'icône. Est-ce qu'on se trompe ?
Je ne sais pas.
C'est pas facile à répondre.
Ah ben oui. Et là, non. Le mec te répond, bien entendu, bien sûr. Mais
non,
mais
c'est pas bien sûr, une icône. Non, pas du tout. Non, mais c'est juste que je pense comme tu l'as résumé juste avant, c'est que. Mais à Brive, le rugby, ça fait partie de la vie de chacun. On a on a vécu des difficultés. Et puis, je pense que le fait de ne pas être parti quand le club est descendu en Pro D2, s'être battu pour le faire remonter, se battre tous les week-ends pour représenter comme il faut notre club, notre ville et faire honneur à tous nos supporters, je pense que c'est ce qui fait que les gens ont cette bonne image de moi. Et puis, je pense que ça veut aussi dire que le travail est bien fait individuellement comme collectivement.
Alors justement, avec Raph, on a parlé tout à l'heure, y a des vidéos qui circulent sur toi, mais moi, il y a un événement qui m'a marqué, un événement qui a marqué la France du rugby. C'est ce jour d'octobre 2021 où lors d'un match contre La Rochelle, Romain Pouac, l'arbitre, va pour sanctionner un troisième ligne du CAB qu'il n'a pas réussi à identifier. Et toi, spontanément, tu te dénonces. Tu dis, voilà, c'est moi, monsieur l'arbitre, et tu prends ton carton jaune et tu sors. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi symptomatique de ton état d'esprit et de tes valeurs?
Mais peut-être, c'était surtout que quand tu fais une bêtise, une erreur, il faut l'assumer. À ce moment-là, je l'ai faite, j'ai tenté un coup qui n'est pas passé et puis je me suis fait prendre. Du coup, on n'allait pas, je ne voulais pas non plus qu'on revoie le ralenti 10 fois et pour dire au final c'est lui. Je me suis dénoncé direct et puis voilà, comme ça au moins tu assumes et puis tu vas sur le banc. Mais le côté négatif, c'est que j'ai mis en difficulté l'équipe pendant 10 minutes et ça, c'est ce qui m'embête le plus.
Saïd Chod, moi, sur ton parcours, alors tu vois, tu as fait 3 ans au Stade français, tu étais aussi barré par quand même des gonzes à un moment où le Stade français est arrivé à l'apogée avec ce titre de 2007. Après la Pro D2, où comme tu l'as dit, hein, tu t'as guéri en Pro D2. Comment tu travailles justement cette partie mentale? Est-ce que c'est ton passé aussi, ta jeunesse aussi? Tu as une famille aussi qui est très, très sportive. Ta sœur a fait de l'aviron, ton autre sœur a fait du rugby aussi. Enfin, ça devient de où en fait cette mentalité qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore sur le terrain à 36 ans?
Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Le fait à l'époque déjà de partir de Mantes-la-Jolie, qui était dans un niveau de jeunes pas très élevé. En première, c'était en Fédéral 3 à l'époque. Le fait d'avoir cette chance de pouvoir aller jouer dans une grande équipe d'un grand club comme le Stade français. On s'est dit que j'allais mettre toutes les chances de mon côté. Ma famille m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup aidé financièrement, mentalement, moralement quand c'était difficile, que ce soit pendant les années du Stade français que pendant les années à Aurillac, parce que le changement a été un peu radical et difficile à vivre quand tu es habitué à vivre en toi. Les liens familiaux, ils sont très forts chez nous. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à 600, 700 kilomètres. Ce n'était pas évident à vivre, bien que là-bas, j'ai rencontré de super personnes. Il y a de ça. Et puis voilà, je me suis dit, j'ai une chance, il faut que je la saisisse. C'est comme, voilà, avec beaucoup de mental. Il y a eu des difficultés à surmonter, mais comme chacun d'entre nous, on a une histoire, on a des choses qui nous ont amenés à jouer au rugby et puis qui font qu'aujourd'hui, on réussit à répondre aux exigences du top 14 ou de la Pro 2.
Et après 10 ans, est-ce que ta famille te suit toujours autant à la télé, chaque week-end? Bon, tu vois, à mon avis, tu fais moins d'allers-retours aussi qu'à Aurillac, parce que j'ai cru comprendre pendant les années que ton salaire passait dans des allers-retours à Paris. Quand tu étais à Aurillac, à tes débuts à Aurillac, à 21 ans, comme tu dis, le déracinement a dû être assez… Je voyais Arnaud qui souriait, tu vois, tu passes d'une ville de 3 millions d'habitants, d'une famille où vous êtes 6 ou 7 enfants, c'est ça?
On est 9 enfants, ouais.
D'accord, donc tu passes de ça à Aurillac seul. Il faut y aller quand même à Aurillac quand même. Hein. Il faut y aller, il faut le mental pour y aller. Donc ma question, c'est de savoir est-ce que ta famille est toujours autant au soutien? Est-ce qu'il y a toujours ce soutien? Ou maintenant que voilà, tu as 36 ans, voilà, tu t'es envolé déjà. Donc est-ce qu'il y a toujours cette ferveur autour de Saïd?
Dans la famille, on a une passion pour le sport. Comme tu l'as dit, mes deux sœurs ont fait de l'aviron, du rugby. Mes frères ont fait du foot. On a tous fait du sport. Et chaque week-end, que ce soit sur les bassins d'aviron ou sur les terrains de foot ou de rugby, il y avait toujours quelqu'un de la famille pour suivre. Et encore aujourd'hui, malgré après tout le temps qui est passé, les saisons qui sont passées, le nombre de matchs joués, la passion, elle est toujours là. Le soutien moral et physique, il est toujours là. Par exemple, tu sais, il y a un groupe WhatsApp qui est dédié à la famille. Et puis, chaque soir de match, mais que je joue ou que je ne joue pas, il y a 500 commentaires. Donc, tu sens et tu sais que la famille, elle vit le match à fond, quoi. Et ça fait du bien.
Donc, tu as dû avoir les commentaires justement sur le ton attitude exemplaire, on peut le dire, par rapport à l'arbitre. Tu peux nous donner deux, trois petites bides de ce qui était? Tu as été chambré,
Oui, j'ai été chambré. Il y en a certains qui m'ont dit, bon, moi, j'ai fait des conneries, jamais je me suis dénoncé. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit, c'est bien d'assumer une fois que tu fais des erreurs. Il faut assumer et puis ça donne ça démontre un bel état d'esprit et une belle éducation aussi.
C'est pas faux. Saïd, je voudrais qu'on revienne aussi. L'an passé, quand tu as re-signé pour une saison donc avec le CAB, donc tu avais déjà 35 ans, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette vidéo avec plein d'anciens joueurs du CAB, des gloires hein, du CAB. C'est une vidéo magnifique. D'ailleurs, il faut féliciter le service COM parce que vraiment, elle était vraiment exceptionnelle, cette vidéo. Comment, j'imagine que tu as dû être touché non, de cette vidéo.
Ah oui, très touché. C'est vrai qu'il faut féliciter le service de COM parce qu'ils avaient fait et ils font un très gros travail, un très beau travail. Mais c'est vrai que sur cette vidéo-là, j'avais reçu la veille et quand je l'ai vue, j'étais touché et ému de voir que d'anciens grands capitaines, grands joueurs de l'équipe étaient présents pour cette vidéo-là, ont répondu présents pour cette vidéo-là, qu'il y avait aussi les deux capitaines des équipes de jeunes. Je pense que ça résumait aussi un peu tout l'état d'esprit du club, quoi. C'est on fait qu'un hein, malgré tout, malgré les années qui passent, la passion pour le club, l'amour pour le club, elle reste la même. Et ça, c'était vraiment bon et bon de le sentir.
Mais justement, cette fidélité qui te caractérise, hein, on le rappelle, hein, 10 ans donc avec le CAB, est-ce que tu as le sentiment que ça se perd dans le rugby? Est-ce qu'on peut encore avoir des joueurs d'un seul club, des Pierre Rabadan, pour ne citer que lui, puisque vous le connaissez tous les deux, c'est un club que vous connaissez bien. Est-ce que ça existe encore? Ou est-ce qu'on va finalement vers des joueurs qui changent de club tous les 3-4 ans, même moins parfois?
Mais personnellement, je pense que ça peut être possible. Il faut coller parfaitement au projet du club. Il faut se sentir bien dans ce club. Ça peut exister, mais je pense que comme tu le dis, ça va se faire de plus en plus rare.
C'est un regret, ça, Raph, toi qui es insensible.
Non, c'est pas un regret, ça existe encore. Bon, moi, d'un autre côté, si j'avais pu faire 15 ans au Stade Français, je les aurais fait. J'en ai fait que 6, mais à la vie, à la mort, tu vois. Même si je suis allé jouer au Racing une année, alors là, autant te dire que je me prends des coups de rap à longueur de temps. Mais ça existe encore. Il y a encore des joueurs. Tu vois, j'ai cité Morgan Parra. On n'imagine pas faire une dernière pige ailleurs. Bon, peut-être que ça arrivera d'ici à la fin de saison, mais
ici, c'est même acté.
Ouais, mais t'as des mecs qui marquent des clubs, quoi, qui marquent des clubs et qui passent passent ouais une grande partie de leur carrière dans les clubs. Puis comme le dit Saïd, oui, il y en aura de moins en moins. Mais après, c'est le système qui veut ça. C'est un peu triste, oui, parce qu'on aime s'attacher justement à des figures qui correspondent bien. Et comme l'a dit Simon, bah, par rapport à toi, Saïd, c'est important en fait de pouvoir s'identifier à des mecs qui restent aussi parce que ça apporte une stabilité, parce que ça apporte une régularité. Surtout dans les moments difficiles, ça, t'as connu des allers-retours, toi justement, en Pro D2 et Top 14, et là encore, ils font une grosse force de caractère. C'est important d'avoir des mecs auxquels tu puisses t'identifier quand t'es jeune et que tu joues à Saulieu-Espon et que t'as des mecs qui sont à Toulon, bah, tu les regardes comme ça et t'as envie de devenir comme eux. Et des mecs qui sont de Toulon et qui ont vécu dans ces petites équipes tout autour, mais comme ça t'est arrivé à Paris, le Racing aussi, Massy qui est aujourd'hui un grand fournisseur de tout ce vivier, on va en parler, de la formation d'Île-de-France, bah, tu te dis que ouais, tu peux jouer au niveau à Paris en étant à Sarcelles, en étant à Beauvais pour mon cas, tu vois, des clubs. Et moi, j'ai aimé aussi le Stade Français parce que j'y voyais Domi, quoi. Et c'est devenu une icône de ce club aussi. Donc, on a besoin de s'identifier à des mecs qui restent dans les clubs, bien entendu.
Saïd, cette histoire d'amour va durer encore combien de temps? Parce que tu n'avais signé que pour un an. Est-ce que tu re-signes pour un an?
Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, quoi, c'est sûr que j'en ai fait plus que j'en ferai. Mais c'est prévu que je reste au club. Après, quelle place ce sera à définir, mais c'est prévu que je reste au club parce que à Brive, on nous met la pression, une pression positive quant à notre reconversion. On nous pousse à faire des formations, on nous pousse à penser à l'avenir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Et du coup, je ne me vois pas trop partir d'ici. Donc, quoi qu'il en soit, je serai là.
C'est quelque chose d'important, la reconversion, puisque Raph en parlait notamment quand tu faisais tes conférences. Le fait que Brive, justement, sensibilise ses joueurs au maximum à cette après-carrière, est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre?
Non, j'avais échangé, moi, avec Simon hier, mais il y a quelques années déjà. Brive, quand même, depuis 2014, est précurseur sur ce qui est de la reconversion. Et j'ai demandé justement à ce qu'il m'envoie je dirais, le PDF, justement, expliquant en fait qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour le joueur. Et c'est l'employabilité des joueurs est un devoir social et sociétal. Donc, convaincre les joueurs sur la nécessité d'anticiper leur reconversion. Parce que c'est dur, ce qu'on demande en fait. À un jeune joueur, on lui demande le double projet, c'est-à-dire de rêver à faire carrière, mais en plus lui demander au double projet, parce qu'on sait que c'est un sport à risque, qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Après, quand tu es joueur en activité à 27-28 ans, il peut avoir une blessure. Et quand tu arrives à 34, 35 ou 36 ans, comme c'est ton cas, Saïd, qui s'occupe de toi quand tu dois être encore performant, mais tu peux aussi stresser inconsciemment et être contre-performant sur le terrain parce que tu as le stress de l'après. Donc, l'anticipation, elle est vitale pour le joueur et pour sa performance et pour son après. Donc, c'est l'échange que j'avais avec Simon hier. C'est aussi appréhender le monde de l'entreprise et rapprocher le joueur du monde du travail. Parce que comment on se connecte aussi au monde du travail après, quelles sont mes compétences? Tu as des supports, tu as des sponsors aussi. Les sponsors, ils ne sont pas là que pour serrer des paluches. Donc, d'aller chercher une carte de visite, de commencer à te tourner vers l'avenir. J'en ai discuté avec Arnaud Mella aussi, c'est que tu es pris en charge. Tu n'es pas déresponsabilisé, tu es responsabilisé sur ton après. Après, il y a faire découvrir les différents secteurs d'activité avec leurs spécificités et faire connaître les métiers et les compétences associées, déclencher une envie et aider le joueur à se projeter. Donc, je remercie d'ailleurs Pauline qui m'a envoyé la présentation parce que ça permet de mettre en lumière ce que tous les clubs devraient faire aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui à un joueur qui est en fin de carrière, merci, au revoir, merci pour le travail accompli. Je pense que Brive est un exemple parce que déjà, il y a une volonté en fait de faire perdurer des traditions, comme on l'a vu sur cette vidéo l'année dernière qui a cartonné, mais aussi de se dire on ne vous lâche pas les gars sur la précarrière. On est là, on vous accompagne, mais c'est aussi à vous de jouer, c'est-à-dire de vous prendre une heure ou deux par semaine. Et pour conclure, j'étais avec Jean-Marc Lhermé hier à l'ANS et je discutais avec lui sur ce sujet de la reconversion et il me disait que c'est très compliqué de le faire comprendre à beaucoup de joueurs actuels. C'est-à-dire comment moi, Jean-Marc, à 55 ans, je peux faire passer des messages, et c'est important par la prévention, par l'exemple, comme le dit Saïd, comme l'explique Simon, comme le fait Brive, et d'autres clubs le font aussi, attention. Hein. Mais c'est important de mettre ça en lumière parce que c'est essentiel pour l'après et pour la performance du joueur sur l'instant T. Voilà, c'est cadeau, je vous ai fait un
monologue. Saïd, ouais, voilà, il nous a fait son monologue, ça te laisse bouche bée.
Là, je ne sais plus quoi dire. Pas quoi ajouter.
Non, mais c'est vrai que pour comment finir, tu l'imagines ?
C'est hyper important.
Comment tu l'imagines ton avenir, toi, Saïd, justement ?
Mais donc moi, il y a 4 ans, on a passé avec Arnaud Mella, Arnaud Mignardi et Guillaume Nami, ainsi que Jean-Baptiste Péjoual, on a passé le DE de rugby. Donc, dans l'idée, ce serait de passer le DES, le degré supérieur, et ensuite, pour ne pas rester cantonné au milieu du rugby, pour voir un peu plus large. Intégrer une formation sur le management, que ce soit dans les entreprises ou dans les organisations sportives. Comme ça, tu vois, ça te permet d'acquérir plusieurs connaissances et d'avoir plusieurs expériences aussi, ce qui est enrichissant et c'est ce qui me permettra, je pense, de voir là où je veux aller.
Alors, donc, vous êtes en rapport avec les sponsors?
Oui. Après, on est en rapport avec les sponsors. On a, en début d'année, on a un petit livret avec toute la liste des sponsors, les contacts. On a Anne Santos qui s'occupe de tout ce qui est reconversion pour nous, les joueurs professionnels. Et après, il s'occupe aussi de tout le centre de formation. Du coup, on passe par elle et puis ça peut nous permettre aussi d'aller dans certaines entreprises pour des journées découvertes. Et sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, pour découvrir différents métiers.
Vas-y, Raph, pardon.
Non, juste une dernière question. Comme je le disais justement dans mon monologue de 3 heures, est-ce que le fait justement d'être accompagné et d'être sur ce travail-là permet d'être beaucoup plus centré sur la performance sur le terrain, sachant qu'on se libère quand même d'une certaine pression, de la peur de l'avenir, parce qu'on est sur du court terme en fait, on est sur des contrats de 2-3 ans. Donc de pouvoir se projeter après, se dire je suis pris en charge sur cette partie-là et en plus je fais l'effort d'eux, dans mon temps libre, ça me permet d'être peut-être plus concentré sur ma performance et d'être plus libéré, non ?
Tu l'as dit tout à l'heure dans ton monologue, si tu es moins performant sur le terrain, peut-être que tu vas trouver une échappatoire dans ta formation scolaire ou professionnelle qui t'amènera dans le futur à avoir un métier. Et c'est bon pour tous les jeunes des centres de formation ou des associations, ne pas penser qu'au rugby, c'est très très important parce que si tu es blessé, tu ne restes pas que dans le centre d'entraînement. Tu ne côtoies pas que tes coéquipiers, peut-être qu'à l'école ou dans les lycées, dans tous les organismes de formation, tu vas côtoyer d'autres personnes et t'ouvrir un peu plus l'esprit. Et ça, c'est très bien pour chacun d'entre nous.
On en parlait au début de l'émission, Saïd, tu viens de Mantes-la-Jolie. On sait que le rugby en banlieue devient un sport important, puisqu'on voit un certain nombre de jeunes joueurs aujourd'hui être là. On parlait de Ibou Diallo, on parlait de Colombe, on parlait de Sekou Makalou. Avant eux, il y a eu Rabat Slimani, qui est un peu plus dans ta génération, Saïd. Est-ce que tu te verrais t'investir justement dans la formation pour permettre à des jeunes talents dans les banlieues, d'éclore au plus haut niveau et peut-être de raconter, toi, comment tu t'es construit, raconter un peu ton parcours.
Bien sûr. Après, si ça peut aider des gars ou même des filles à se trouver, à comment dire, si ça peut aider des joueurs, joueuses à évoluer humainement, sportivement, pourquoi pas, il n'y a pas de souci à partager mon expérience, mon vécu, parce que ça peut aussi donner des idées et se dire qu'on peut y arriver avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination et que c'est pas parce que on grandit dans une cité que mais on arrivera à moins de choses que d'autres, quoi.
C'est peut-être important aussi de communiquer justement autour de des exemples comme le tien et comme d'autres, hein, c'est sûr que
L'avantage en fait que ça se popularise. Et le rugby, et le fait qu'il y ait énormément de joueurs issus de banlieues sont aujourd'hui dans le top 14 et fleurissent partout dans le top 14, ça permettra de ne pas faire un espèce de truc assez exceptionnel, c'est que ça devienne la norme. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'à l'époque, c'était exceptionnel et les mecs en avaient un peu ras-le-bol. Quand j'en parlais avec Salim Tebani, quand même, qui a été l'un des premiers joueurs professionnels à jouer au Stade français d'ailleurs en 97, mais je vais faire le parallèle avec Tahar Rahim, que je connais bien aujourd'hui. Tahar, il ne prend pas la parole pour essayer de se mettre en avant et dire bon, « en fait, ouais, je suis un exemple, en fait, un mec issu de banlieue qui peut s'en sortir ». Le fait d'en parler moins et de voir que les mecs en fait, ne prennent moins la parole, mais réussissent, que ce soit Tahar, que ce soit Salim, que ce soit Saïd ou que ce soit tous ces mecs qui réussissent, le fait de populariser et de voir de plus en plus maintenant, on est moins sur le côté exceptionnel à dire « ah ben ouais, on peut s'en sortir des banlieues ». Mais en fait, la banlieue, c'est la France, c'est la vie. Et ça, tu vois, d'éviter d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, le fait de voir tous ces mecs sur le terrain et ces mecs réussir dans tous les milieux, en fait, c'est juste la norme et ça fait partie de la France. Et c'est ça que je voulais mettre en tout cas en lumière. Je ne sais pas si tu partages avec moi, Saïd. Il y a toujours ce côté un peu exceptionnel de « on sort de banlieue, c'est exceptionnel, oui, on peut s'en sortir ». Bien sûr qu'on peut s'en sortir.
Ouais, je le partage un petit peu, comme tu dis, ça, il faut que ça devienne un peu la norme. Mais juste par rapport, c'était plus par rapport au milieu du rugby qui n'est pas très populaire dans les cités. Donc
c'est ça ma question.
Je ne le voyais pas comme ça autant pour moi.
Je voulais savoir si la fédération, par exemple, exploitait le potentiel qui est immense sur ces territoires-là. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a des clubs parfois qui sont peut-être un peu laissés à l'abandon. Quand on voit des clubs comme Sarcelles qui, voilà, aujourd'hui, n'ont pas toujours une très bonne image, alors qu'ils forment des joueurs formidables. Voilà, c'était ma question, elle est dans ce sens-là pour Saïd.
Attends pour moi, pardon.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je rejoins ta position. Après, on a la chance et j'ai eu l'impression sur les années qui sont passées qu'à chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde qui s'est déroulée, il y a plein de jeunes joueurs qui ont découvert ce sport de tous les milieux et je pense que ça va continuer d'évoluer. La prochaine va se dérouler en France. Je pense que ce sera bénéfique à tout le monde. Je pense que aussi, pendant les Coupes du Monde, il y a dans les collèges, dans les lycées, dans des écoles primaires, on apprend le rugby et ce sera très bon pour notre sport et peut-être dénicher les futurs talents des équipes de France.
Alors, puisque tu parles de Coupe du Monde, Saïd, c'est parfait pour notre transition. Tu comptes une sélection avec l'Algérie. Alors d'abord, pourquoi pas davantage ? Est-ce que ça a été compliqué de concilier justement les sélections avec l'Algérie et le rugby en top 14 ? Et l'Algérie en Coupe du Monde 2023, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça ne te donne pas envie de prolonger ? Ça fait beaucoup de questions là.
ça fait beaucoup de questions, mais on va repartir de là-bas. Si tu veux, ce n'est même pas une sélection, c'est une… je ne sais pas, parce qu'à la base, quand j'y suis allé, c'était une association de joueurs.
Oui, c'est vrai.
Français d'origine algérienne. Et du coup, on était parti en Tunisie, on a joué un match amical avec une expérience humaine formidable. Et ensuite, derrière, il y a eu un travail qui a été fait pendant des très longues années pour construire une fédération. La fédération, elle a été créée il n'y a pas très longtemps. Il y a eu plusieurs matchs amicaux qui se sont déroulés, des tournois en Afrique. Le rugby est implanté en Algérie, il se développe petit à petit avec des équipes de jeunes, des équipes féminines et l'équipe senior. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, pour la qualification à l'équipe à la Coupe du Monde pour l'équipe d'Algérie, il reste un tournoi cet été, il me semble, oui. Où il va falloir remporter le tournoi et peut-être à la clé une qualification pour l'équipe d'Algérie et intégrer la poule de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, un très gros objectif et ce serait historique et aussi, je pense, très symbolique de remporter ce tournoi et d'intégrer la poule de l'équipe de France.
Mais tu n'as pas répondu, il manque une question.
Il y en avait beaucoup.
Et toi,
dans cette histoire.
Parler de lui, mais quand même.
Ah non, on a des matchs. D'abord, on joue les matchs qui nous attendent et puis on verra par la suite. Il faut se concentrer sur ce qui se passe là tout de suite. Et on verra pour le futur, mais on reste fermé à rien. Quoi.
Bon là, ça, c'est une bonne chose.
Une petite question, mais à titre perso, parce que tu connais mon amitié pour Salim Tebani. Quand ta première sélection, c'était à cette époque-là, en fait, c'était au début de quand Salim, justement, a voulu, avec son frère, créer, justement, la Fédération algérienne de rugby, le rugby féminin, il a tenté de l'implanter, justement, là-bas. Est-ce que c'est à cette période-là, justement, où tu étais?
Ah, c'était au tout début, hein. C'était en 2007, je crois. Et effectivement, ouais. le premier match que j'ai joué, c'était avec Salim. Après, lui, il a continué, il y est allé plus régulièrement. Moi, un peu moins. Et lui, après, avec son frère, ils sont devenus entraîneurs, sélectionneurs. Et puis après, il y a eu des changements et des évolutions dans les staffs. Mais je sais que leur passion pour le rugby et pour le rugby algérien aussi, elle est très forte. Et voilà, ils continueront à être engagés là-dedans.
Bon, on a compris que là…
On te voit quand même en fin d'année, tu vois, t'arrives, on espère que Brive jouera les phases finales, ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas, on vous le souhaite, on ne sait jamais, il y a eu des miracles dans le rugby, regarde Castries.
On va en parler, on a encore deux petites questions.
On va en parler, mais après ça, on a bien compris qu'une année de plus à voir, mais il y a quand même ces matchs cet été, ce serait quand même sacrément symbolique de terminer par des bons matchs, certes, avec le CA Brive, qui est essentiel, certes, on l'a compris, mais il y a quand même ça derrière. Ça t'a pas une petite piqûre d'envie, tu vois, de te faire une Sergio Parissé, quoi, tu vois, d'aller…
Non, mais j'ai jamais dit non, sauf au moment où c'était pas possible, parce que à une époque, les matchs, ils se chevauchaient, les matchs avec l'équipe d'Algérie, ils se chevauchaient avec ceux du top 14, et ça collait pas au calendrier, et puis là, ça a l'air d'être un peu mieux organisé et calé. Donc on verra avec comment sera le corps aussi.
On l'a bien compris, la priorité c'est le top 14 justement, on va terminer un peu là-dessus quand même, parler un peu du CAB et de son actualité. Le CAB 13e aujourd'hui, Saïd, donc en position de barragiste, alors qu'il y a quelques semaines, le CAB tournait plutôt bien, je me souviens même de Jeremy Davidson qui avait dit il faut raconter avec le CAB cette année. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette 13e place pour les brévistes?
Mais tu sais, quand tu es 13e, c'est jamais confortable. C'est pas très… voilà, tu regardes un peu derrière. C'est vrai qu'en début de saison, on regardait un peu plus devant nous. Là, on regarde un peu plus derrière. On calcule les points, on regarde les résultats de chaque équipe. Il faut s'en inquiéter. Si on gagne ce week-end, ce sera un autre pas vers notre objectif principal. Et c'est vrai qu'on a connu une période difficile avec pas mal de défaites, avec pas mal de blessés, mais toujours avec un état d'esprit conquérant et l'envie d'atteindre notre objectif. Du coup l'équipe est volontaire et engagée dans le travail. Et on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va jouer match après match et puis on verra où on sera au mois de février, parce qu'on a un gros mois de février qui nous attend.
C'est marrant parce que, sorti de ta bouche, tu vois, quand les rugbymen disent match après match, c'est un truc qu'on entend assez souvent, mais sorti de ta bouche, ça a beaucoup plus de crédibilité parce que t'as, voilà, vous connaissez cette position et aussi ces allers-retours, on l'a dit, en Pro D2. Et c'est vrai que tu es obligé aujourd'hui de faire match après match pour aller grappiller des points, pour voir un peu comment les adversaires qui sont positionnés un peu comme toi, à 2-3 points différents, sont, ou s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. Donc c'est vraiment… Là, ça, le fameux « on prend match après match et on se met au travail », ça a plus de sens à Brive que dans d'autres clubs, je trouve.
Oui, surtout que tu vois, on n'est pas passé loin de la victoire contre La Rochelle, contre Bordeaux. Du coup, le classement est assez resserré, c'est assez homogène. Du coup, avec quelques matchs en retard, tu ne sais pas à quelle position tu seras le week-end prochain. C'est pour ça que l'expression match après match, elle a tout son sens là.
Exactement.
Saïd, un grand merci de nous avoir accordé de ton temps. On sait qu'il est précieux, surtout à 36 ans. On a bien compris qu'il fallait rester longtemps entre les mains des kinés et des ostéos. Hein, donc, un grand merci. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à notre ami Raph Poulain.
Non, mais je suis ravi parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai vu Saïd arriver. Je venais d'arrêter presque ma carrière au stade en 2005. Et j'ai vu ce mec qui était posé aussi au milieu de toutes ces, comme je les ai citées, un peu les légendes et qui sont devenues des légendes du stade. Et de voir que ce gamin arrivait de Mantes-la-Jolie, parce que moi, quand je joue à Beauvais, aller jouer à Saint-Denis à Mantes-la-Jolie, je peux dire que tu y allais reculons quand même. Hein. Et de voir ce mec-là arriver, mais je pense à Mika Bhallat et tout ça, enfin bref, de voir ce mec-là arriver, de voir où tu en es aujourd'hui, il y a juste à dire chapeau, parce qu'on a parlé des vidéos, on a parlé de ton parcours et encore ce côté humble que tu vois, comme on a vu dans cette émission aujourd'hui. Bah putain, ça fait du bien parce que ça correspond aux valeurs et comme le dit Simon, aux valeurs de Brive. Moi, j'aime beaucoup ce club parce qu'il y a un truc qui reste, quoi. Il y a un truc d'irréductible gaulois et je trouve que Saïd, capitaine d'un village d'irréductible gaulois, ben moi, je trouve que ça a de la gueule. Donc voilà. Et en tout cas, on te souhaite une belle fin de saison, match après match, bien entendu. Et puis moi, je sais pas, j'aimerais te voir avec l'équipe d'Algérie cet été. Je trouve que ça aurait aussi de la gueule. Donc le meilleur pour toi, pour déjà ce week-end et puis les matchs à venir. Saïd, merci.
Merci beaucoup, merci à vous pour cette émission. Merci de m'avoir invité et puis content d'avoir pu m'exprimer sur les différents sujets. Et puis je nous souhaite une belle saison de rugby à nous et une belle qualification à l'Algérie et puis une bonne continuation à vous deux.
Merci Saïd, à bientôt.
Merci, Poulain Rafut, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.